Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
À l'écoute de RDIWA 101.7, 107.5 FM et en compagnie de Olivier de Cepibus. Salut à toi.
Salut.
Nous allons parler des rendez-vous au jardin que tu proposes sur dix dans ton jardin.
Voilà, qui s'appelle le Jardin Bleu.
Le Jardin Bleu. Tu nous rappelles ce que c'est le Jardin Bleu ?
Alors le Jardin Bleu, c'est une parcelle que j'ai acquise en 2017. Et depuis, je plante, j'appelle ça un jardin rucher. Donc, il y a un petit rucher d'une dizaine de ruches qui sont présentes. Et disons que le propos de mon travail, c'est de créer une réciprocité entre les abeilles, les ruches et le paysage. Donc, d'une certaine manière, si dans mon intention, c'est de prendre du miel aux abeilles, c'est aussi leur apporter les plantes qui leur est nécessaire pour faire du miel. Donc, si je prends quelque chose, je leur donne d'abord quelque chose, je leur rends. Donc, je plante essentiellement des plantes mellifères. Et donc, ce sont des plantes qui font donc des fleurs et dans lesquelles les abeilles vont butiner et du nectar et prélever le pollen nécessaire pour vivre et survivre. Voilà.
Et tu plantes des essences spécifiques,
voilà,
pour donner un goût.
Exactement.
Lesquelles, par exemple ?
Ah non, mais alors je ne plante pas des plantes spécifiques pour leur donner un goût. Je plante des plantes spécifiques pour assurer la floraison permanente entre, on va dire, fin février et fin octobre. Voilà. Parce que les abeilles se nourrissent toute l'année, comme tout le monde. Et donc, il leur faut une floraison permanente. Et donc, dit une floraison permanente sur toute l'année, sauf l'hiver, impose une grande diversité florale. Et en fait, c'est cette diversité florale qu'on est en train de perdre. Et en plus, avec le changement climatique, fait qu'un certain nombre de... Enfin, la saison estivale est en train de devenir une saison morte, comme l'hiver. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de fleurs en fleurs.
Parce que trop sèche.
Parce que trop sèche et parce que trop chaude. Et qu'il faut maintenant introduire des essences florales qui sont en fleurs, justement. Les introduire, soit elles existent déjà et il faut les amplifier, soit elles n'existent pas encore et il faut les amener.
Donc des plantes, j'allais dire, de pays chauds, par exemple, enfin, qui ne viennent pas forcément de France.
Disons que c'est toute la flore méditerranéenne qui est en train de monter.
Ouais.
Donc, elle est en train de venir naturellement, hein, évidemment. Mais disons que dans nos jardins, on peut très bien l'instaurer. Donc, c'est une flore indigène dans le sens où toutes les fleurs migrent. Et nous, on peut simplement lui faire gagner un peu du temps et les installer dans nos jardins. Naturellement, elles vont venir. Donc voilà, c'est tout ce qui est ce genre de plantes déjà que l'on connaît beaucoup et qui sont même cultivées ici, comme les pâmes, les fameuses, voilà. Mais qui ne sont pas assez présentes dans les jardins. Et enfin, quand je parle des jardins, c'est tous les jardins ouvriers du Perrier, de l'Aube
Le jardin de chez soi, de chacun.
Voilà. Et c'est dommage, elles ne sont pas assez présentes, ces plantes. Et après, il y a un certain nombre de plantes où, effectivement, elles sont en fleurs tout l'été. Et ça peut être des plantes aussi. Chez nous, par exemple, là, j'ai installé pas mal d'agastaches. Ça, c'est l'agastache, c'est une plante indigène, hein, qui est médicinale et qui est en fleurs tout l'été. Alors après, on voit pas mal d'autres plantes qui sont très appréciées des paysagistes. Donc, on les voit souvent en rond-point ou voilà.
Ce qui est pas mal, finalement.
Ce qui est pas mal, parce que, par exemple, la perovskia ou l'agora, ce sont des plantes qui sont très présentes dans tous les ronds-points et les plates-bandes de communes. Mais elles ne demandent aucun entretien, dans le sens où il n'y a pas besoin de les arroser et elles supportent des chaleurs incroyables. Et elles apportent nectar et pollen. Donc, c'est un travail, on va dire, expérimental, non scientifique, parce que je suis artiste, on va en parler. C'est un travail, on va dire, empirique. Et comme je suis apiculteur, je suis très, en recherche de toutes les plantes mellifères. Donc, je fais pas mal d'essais. Et ce sont les erreurs, enfin voilà, qui les bonnes et mauvaises surprises qui me font planter des espèces qui sont assez peu présentes ou trop peu présentes ou pas assez présentes dans le territoire et qui peuvent donner après des idées aux autres jardiniers. Mon jardin, l'année dernière, c'était assez surprenant, mais même l'année précédente, mais l'année dernière, qui a été si chaud et si sec, et certainement les étés prochains le seront de la même manière. Simplement en regardant mon jardin comme ça, je voyais toujours au moins quelques papillons voler. Donc, effectivement, les insectes pollinisateurs vont se rabattre à l'endroit où il y a de la fleur. Et dans mon jardin, il y a des fleurs tout le temps. Quoi.
Une oasis.
Mais ça pourrait être, chacun pourrait créer des oasis dans ses jardins. Mais après, d'un point de vue culturel, j'avais lu ça et c'est vrai qu'on attend de notre période là où donc l'interview se fait au printemps, on attend que nos jardins soient fleuris maintenant et que le printemps, c'est la saison des floraisons et des fleurs. Mais culturellement, on a moins cette attente d'espaces fleuris en été. En tout cas dans nos jardins.
Encore moins en hiver.
Et encore moins en hiver. Mais bon, en hiver, c'est normal, on va dire. Il y a quelques espèces florales en fleurs l'hiver, mais bon, c'est assez... Donc, pour la saison estivale, il y a aussi cette culture à retransmettre, à se réapproprier d'espaces végétalisés en fleurs, fleuris. Et ça, c'est très important. Un espace végétalisé n'est pas suffisant. Il faut qu'il soit fleuri.
Parlons-en. Est-ce qu'il y a de la pédagogie ? Comment est-ce que tu transmets ce que tu es en train de nous dire là ?
Voilà, exactement. Donc, cette année, pour la première fois, j'ai fait une demande de financement auprès de la commune de Die. Qui a accepté. Et donc, j'ai reçu un financement pour accueillir des écoles. Donc, les années précédentes, c'était plutôt un accueil touristique que je faisais en collaboration avec l'Office du tourisme, parce que mon jardin est assez proche. Mais finalement, c'était une option qui n'était pas tellement, satisfaisante pour moi, en tout cas. Et donc, j'ai préféré réaxer, on va dire, mon activité sur du pédagogique. Et donc, voilà, j'accueille des écoles. Et pour l'événement que l'on va parler, donc les rendez-vous au jardin, le vendredi, en général, c'est consacré aux écoles. Et donc là, voilà, je vais toute la journée du vendredi, je vais accueillir 6 classes différentes. Mon activité pédagogique s'inscrit dans la connaissance approfondie des relations entre les abeilles, les insectes pollinisateurs et tout le paysage, et donc les plantes mellifères en particulier. Mais ce que je parlais tout à l'heure de la réciprocité que l'on peut avoir est circulaire entre l'humain, les abeilles, donc prélèvement de miel. Et si je prélève du miel, alors je dois donner un paysage qui leur est favorable, donc un paysage mellifère. Il y a aussi ce don et ce contre-don du soin que l'on peut avoir les uns avec les autres. Don et contre-don que l'on a avec les abeilles, c'est le soin que les abeilles peuvent nous apporter dans les substances que l'on peut prélever. Donc, c'est la propolis, le pollen.
La gelée.
Qui sont la gelée royale, etc.
Le miel, bien sûr, qui est
le miel,
grande propriété.
Voilà, grande propriété avec beaucoup de vertus. Et donc, je fais aussi des ateliers de connaissance de ces substances. Il y a toute une pédagogie aussi à faire autour de ces produits qui sont souvent mal utilisés et achetés à des endroits qui ne sont pas forcément les endroits les mieux dotés pour avoir les produits de meilleure qualité. Ce qui fait que souvent, les résultats sont assez décevants. Alors que l'herboristerie est restée dans notre culture, dans notre pharmacopée familiale.
Bien que régulièrement attaquée. Hein,
oui, bien que régulièrement attaquée. Ouais. Mais bon, la tisane reste...
Ça va, oui.
Voilà, reste même... Enfin, voilà, quand on a une fièvre, etc., ou qu'on a une grippe ou un rhume, on prend souvent une tisane de thym et c'est resté dans la pharmacopée, alors qu'on oublie que la propolis a des vertus extrêmement puissantes et qui peuvent être utilisées avec des très très bons résultats. Mais encore faut-il savoir quelle propolis prendre, où la trouver et comment l'ingérer. Voilà. Donc moi, je ne suis absolument pas médecin, je ne suis absolument pas thérapeute, donc je ne rentre pas du tout dans tout ce cadre qu'il y a beaucoup dans le DIWA de gens qui espèrent soigner les gens avec une médecine alternative. Moi, mon propos, c'est de faire connaître ces produits, de faire connaître ces vertus, que ma formation allait sur une base scientifique avec des médecins. Et c'est de faire le lien justement entre la tradition et la science, évidemment, comme l'herboristerie a validé tout ce que la tradition utilisait de façon dans un savoir empirique, on va dire. Et donc maintenant, la science a repris tout le savoir traditionnel et en plus, maintenant, elle augmente dans tout un tas d'autres pathologies dont les produits de la ruche sont extrêmement efficaces. Voilà. Donc, c'est cette information que j'apporte à travers mes ateliers.
Et alors, il y en a deux, là, prochain, on peut les citer de suite, si tu veux bien.
Alors, voilà, il y en a. Alors, hop, là, il faut que je les trouve.
Planté pour les pollinisateurs le 20 mai.
Donc, voilà, ça, c'est la semaine prochaine, samedi prochain. La semaine suivante, ça sera justement sur les produits de la ruche.
Le 27,
donc, le miel, qui est un très, très bon pour cicatrisant. Et puis, la propolis, le pollen frais, la gelée royale, le venin, qui est un anti-inflammatoire, ce qui est contre-intuitif. Et ensuite, j'ai deux ateliers où je propose aussi de faire des cosmétiques. Et là aussi, je m'aperçois qu'il y a pas mal de gens qui font des cosmétiques avec, par exemple, de la cire d'abeille, qui est une base extraordinaire pour faire des cosmétiques. Mais malheureusement, beaucoup de gens utilisent une cire d'abeille qui n'est pas faite pour les cosmétiques, mais qui est faite plutôt pour faire
des bougies,
du cirage ou je ne sais pas quoi, mais pas pour se mettre sur la peau. Et là, il y a deux qualités de cire et encore faut-il savoir où la trouver et voilà.
Alors ça, ce sera quand? Il y a pas de date.
Donc ça sera au mois de juin, le 17 juin et le 24 juin, deux ateliers de cosmétiques. Et là, les ateliers sur les produits de la ruche, ça sera
Les 20 et 27 mai.
Voilà, le 20 et le 27 mai, voilà, exactement.
Revenons donc au rendez-vous au jardin. Alors c'est une opération du ministère de la Culture, hein, tu me le disais
exactement
tout à l'heure hors antenne, avec cette année le thème « Les musiques du jardin ».
Voilà, donc comme on va parler art maintenant, puisque...
Voilà, tu es artiste, tu nous l'as dit.
Voilà, et puis le Jardin Bleu, c'est un lieu aussi de création artistique, en tout cas expérimentale, un lieu de création expérimentale, artistique, en lien avec le vivant. C'est-à-dire que moi, mon travail depuis... Une bonne dizaine d'années, j'étais venu à cette antenne et aussi parler du goût du paysage. C'était comment la relation à l'abeille va apporter une création artistique et que finalement l'abeille est un guide ou une médiatrice pour moi de différentes créations. Et là, depuis l'année dernière, je travaille avec un trio, Lorelai David, qui est... Donc, chanteuse lyrique et Sébastien Grenat, qui est batteur. Et je leur ai proposé l'année dernière de travailler sur le son de la ruche comme matière sonore. Donc, que ce son-là, que tout apiculteur connaît très bien, puisque quand on va opérer sur les ruches, on baigne dans ce bain sonore. Mais aussi parce qu'on a certainement une très vieille tradition du bourdonnement de l'abeille avec le fameux bourdon dans les chants, qu'ils soient religieux, voilà, et de toute la musique, voilà, je crois mondialement, le bourdon est utilisé. Et donc, toutes les populations proches ou lointaines de ruchers ou de ruches ou d'insectes pollinisateurs entendaient ce bourdonnement. Et donc, là, utiliser ce bourdonnement comme base, on va dire même comme plateau presque, de leur musique, on va dire. Ma proposition à Lorelai et Sébastien, c'est d'utiliser le bourdon d'abeille et de ne pas le changer. C'est vraiment... Moi, j'ai fait quelques enregistrements de bourdons d'abeille différents à l'extérieur, à l'intérieur, à différents moments. Donc, on a des bourdonnements différents, mais je ne modifie pas ce bourdon d'abeille. C'est vraiment la matière vers laquelle nous, musiciens, nous allons vers. Voilà.
Ouais, c'est la note de départ.
C'est la note, celle-ci. Voilà. Et nous, on essaie d'improviser autour du bourdon d'abeille. Donc l'année dernière, on avait fait un concert déjà. Et là, c'est notre deuxième proposition que l'on va faire. Donc là, je commence un peu par la fin
C'est bien aussi.
De cet événement. Mais c'est, voilà, c'est pour juste illustrer le travail que je fais au Jardin Bleu, le travail artistique que je fais au Jardin Bleu. Et donc, ce travail artistique, là, ce concert, il s'est appuyé surtout à travers un travail poétique que j'ai fait. Donc, j'écris différents poèmes que m'a suscité mon travail avec les abeilles. Et donc, voilà, le son de la ruche, donc, qui sera donc, le dernier concert le dimanche 4 à 17h, sera donc un concert où il y aura du texte, du chant, de la musique. Et donc, on sera aussi dans le bain des abeilles. Donc, si on revient au début de la programmation, et la programmation s'ouvre avec Le Pestel, au cinéma Le Pestel, le vendredi 2 juin à 21h. Donc, c'est l'horaire d'été. Et là, j'invite Natacha Boutkevitch, qui est une réalisatrice du Trièves et qui a suivi pendant 2 ans des maraîchers qui sont très proches de là où elle habite, à Clèles, des maraîchers de Clèles, et qui sont des maraîchers qui sont venus s'installer dans les années 70, là, dans le Trièves, et qui ont une relation à leur jardin absolument extraordinaire, dans le sens où la maraîchère, la dame, depuis le début, a un almanach. Maintenant, on n'utilise plus d'almanach, et donc c'était des petits livres, et jour après jour, elle note tout ce qu'elle fait, et tout le temps. Et donc, elle a 50 ans, comme ça, bon, j'exagère un petit peu, 70, si, ça fait pratiquement, elle a au moins une quarantaine d'années d'archives, de ce qu'elle fait. Mais elle note pas uniquement ce qu'elle sème, mais aussi elle note des événements météorologiques, les hirondelles quand elles arrivent, etc. Elle note tout. Et donc, c'est vraiment une attention multisensorielle que ce couple a avec leur jardin. Et Natacha Boutkevitch est une cinéaste aussi qui va chercher dans son cinéma et sa relation, on va dire, avec le monde vivant, une certaine horizontalité. Et ce film est vraiment une illustration de ce que ça peut être, justement, une attention horizontale au vivant. C'est-à-dire que le film ne montre pas un travail de maraîcher, et on va dire même s'ils sont bio, voilà,
commercial, etc. De prélèvement.
Non, enfin, là, ouais. C'est vraiment une attention à tout le vivant qu'il y a dans le jardin, aux événements météorologiques, et c'est une mise en récit de tout ça qui extrêmement fort. Donc j'ai vu le film, et en ayant vu le film, il m'a complètement convaincu.
J'allais dire, même d'un point de vue scientifique, c'est hyper intéressant d'avoir 40 ans comme ça, d'une photographie d'un lieu, en l'occurrence, alors, cette partie-là du Trièves.
Alors peut-être
que tu aurais vécu ça.
Oui, alors, effectivement, oui. Effectivement, peut-être que scientifiquement, un jour, un étudiant, une étudiante viendra fouiller, fera une thèse sur la base de ces archives. Enfin, en tout cas, ce sont des archives extrêmement intéressantes. Ouais. Même si elle note de façon, le soir ce qu'elle a fait, donc j'imagine que souvent elle est fatiguée, donc c'est pas des grandes phrases. Mais au fur et à mesure, d'année en année, cette attention profonde avec son territoire, avec son lieu, avec son jardin, etc. C'est vraiment une relation très poétique avec.
C'est là que ça te touche, du coup, puisque même approche.
Et puis c'est ce qu'on. Et c'est très contemporain, cette approche, c'est-à-dire que c'est comment nous entretenons des relations sociales avec le monde vivant. Et aujourd'hui, je pense que une des phases contemporaines dans laquelle on est dans notre relation avec l'environnement, et ce terme, souvent je le réfute parce qu'il ne nous environne pas, nous le fabriquons tant que nous en sommes. Donc c'est vraiment ce terme vivant où comment horizontalement nous essayons de créer des liens de réciprocité, des liens d'attachement et des liens sensibles, effectivement. Et ça, la science aujourd'hui est en train de comprendre que nos liens sensibles avec le monde vivant est tout autant important que la connaissance que la connaissance que nous pouvons en avoir. Donc d'où ce jardin bleu, on va dire, essaie de faire la synthèse de ces deux relations, on va dire, à la fois la connaissance scientifique, connaître le plante, je sais pas, la vie des abeilles, etc., et des autres insectes pollinisateurs, et que la relation sensible n'est pas qu'une relation, on va dire, de positive, c'est-à-dire que ce n'est pas une relation qui est uniquement faite de la contemplation ou d'une beauté un peu béate ou de bien-être.
Oui,
voilà.
C'est ça.
C'est aussi une relation qui est faite de contraintes, de menaces,
et d'incertitude.
Et souvent, bon, le terme de soumission, il n'est pas tout à fait juste, mais en tout cas, on comprend très vite que si on se lie et que si notre vie est liée à son jardin et au monde vivant, c'est-à-dire qu'une partie de notre alimentation vient de son jardin ou de notre relation vivant, le rapport à la soumission, c'est-à-dire que là, ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire que l'humain se sent tout puissant par rapport à la nature, et bien là, le rapport forcément s'inverse, et qu'il y a un rapport d'humilité, et que ce rapport d'humilité implique donc un rapport de soin et d'attention. Voilà. Et que finalement, ce rapport de soin et d'attention, on ne l'a jamais vraiment perdu, mais qu'aujourd'hui, il devient de plus en plus aigu, important, et que ce rapport de soin et d'attention que l'on a avec les uns avec les autres ne se fait pas uniquement par l'information, mais il se fait, ou par la connaissance, mais il se fait aussi par le sensible, l'intuition. Et voilà, c'est ce que j'essaie de mettre en place. Et ce que finalement, nos voisins jardiniers, enfin voilà, c'est ce que l'on fait tous. C'est-à-dire que nos relations, lorsqu'on plante des tomates, on a une relation affective à nos tomates qui est incroyable, quoi.
Même si on y met plein d'intrants et de pesticides.
Je pense que ça se fait de moins en moins. Par contre, effectivement, on a toujours un très gros problème, et moi le premier, avec les limaces. Ça, c'est vraiment... voilà. À un moment donné, il y a une espèce qui vient menacer notre production.
En permanence.
Et quand elle est là et qu'elle continue à... Voilà, on a tendance à avoir une facilité à mettre la petite poudre bleue que le vendeur du coin nous dit qu'elle est bio, mais en fait, elle n'est pas si bio que ça, puisqu'elle détruit aussi les vers luisants. Et que, comme par hasard, les vers luisants, eh ben, ils se nourrissent des limaces. Lorsqu'on va chercher de la chimie, comme dernier recours, voilà, qu'on s'affole et qu'on voit nos plants se faire bouffer par des limaces, on prend un risque et puis... garder confiance sur le fait que la limace a aussi, dans la nature, une espèce qui va... Elle est aussi une proie pour...
finira par se réguler, c'est ça que tu dis. Ou alors, il faudrait mettre des plantes privilégiant les vers luisants. Enfin, ça devient... On met le doigt dans un cycle.
Oui, oui, voilà, voilà. Donc, nous, dans nos jardins, on peut quand même se permettre à éventuellement... Si vraiment on abandonne tous les pesticides, on se rend vraiment attentif à tout un écosystème qu'il s'agit de... Là, actuellement, les fèves sont en fleurs. Bon, bah, les gens s'affolent parce qu'il y a des pucerons. Mais laissons les pucerons. Les coccinelles sont là. Ils vont les manger, ces pucerons. Et puis, quoi qu'il en soit, elle se débrouille très bien, la fève, avec les pucerons dessus. Les plantes ont de quoi se défendre. Donc, il faut faire aussi confiance à ça. Et puis, nous, bah, de temps en temps, bah, voilà, on peut aider, je ne sais pas, mettre du saumon noir, faire des trucs comme ça. Bon, pourquoi pas? Mais ne pas aller chercher, tuer les pucerons, parce que les pucerons sont aussi le nourrissement d'autres insectes. Donc, c'est ça, c'est sur cette affaire-là qu'il faut faire confiance, quoi.
Voilà. Alors, on a un peu dérivé, mais c'était pour
parler au rendez-vous au jardin. Et c'est cette attention-là que l'on va avoir tout le week-end. Donc ça, c'était le vendredi soir, donc le film En ce jardin, au Pestel. Donc. Et le lendemain, on ouvrira le week-end par l'exposition-installation de Nolwenn Goupil, qui va installer dans un des deux cabanons qu'il y a présent donc au Jardin Bleu, qui s'appelle Cicada, et autour de la
cigale.
De la cigale, voilà, merci. Autour de la cigale. Donc, on connaît Nolwenn et on a déjà vu ses expositions, installations. C'est toujours très, très fin. C'est presque de l'ordre du bricolage où il y a du son. C'est dans une ambiance sombre. Donc, voilà, on va assombrir tout le cabanon.
Et ouais, il y aura des petits haut-parleurs partout.
Voilà, des petits haut-parleurs. Et puis, ouais. Il récupère les mues de cigales. Voilà. On retrouvera son exposition dans la programmation plus tard. L'après-midi, il y a un atelier mené par Stéphanie Caillot, qui est artiste plasticienne connue aussi dans le Divois, et qui, là, va inviter à dessiner les espèces florales. Donc, c'est un atelier de dessin et de gravure.
Prix libre
pour les grands et les petits. Donc venez avec vos enfants, venez aussi avec des habits un peu salissants, hein, parce que la gravure, l'encre est indélébile. Et au même moment, donc ça c'est le samedi après-midi à 15h, et au même moment à 15h, moi je ferai une visite du jardin et de toutes ces espèces florales, donc mellifères. Souvent les plantes mellifères chez les vendeurs de plantes, voilà, ils rajoutent le fait que la plante est mellifère, donc peut-être bénéfique pour les insectes pollinisateurs, mais souvent ils mettent intérêt secondaire. Et je trouve ça dommage. Pourquoi il est secondaire? Et souvent les insectes pollinisateurs, les scientifiques les appellent des auxiliaires. Mais ils sont auxiliaires de qui et de quoi? Et ces plantes seraient secondaires, leur intérêt mellifère seront secondaires, pourquoi serait-il secondaire? Donc moi je parle plutôt d'intérêt partagé. Et donc, évidemment que les plantes, énormément de plantes sont mellifères, puisque c'est leur moment floral qui est mellifère. Mais ensuite, la fleur devient un fruit, c'est une plante médicinale.
Du coup, c'est hyper important, pardon.
Voilà, c'est hyper important.
C'est même pas secondaire, c'est primaire.
Voilà, et donc c'est primaire. Voilà, ça pourrait être l'intérêt premier d'avoir ces plantes. En fait, c'est comment faire tourner cette relation où le nourrissement et les intérêts sont complètement partagés. Voilà. Et donc, c'est ça que je vais présenter dans mon jardin, dont l'intérêt ornemental aussi n'est pas un intérêt secondaire. C'est-à-dire, avoir un jardin fleuri en plein été, c'est aussi un vrai plaisir, et que le plaisir de l'œil d'avoir des fleurs dans son jardin n'est pas un intérêt secondaire ou anecdotique. Voilà.
Pardon, mais tu fais aussi des légumes dans le jardin ou pas du tout?
Alors oui, moi je fais des légumes, mais j'ai mon jardin à moi.
Enfin, oui, voilà,
c'est pas...
Mais la majeure partie de ce jardin bleu est couvert de fleurs.
Donc voilà, la partie dite jardin bleu gérée par une association qui s'appelle Relief, c'est vraiment le projet pédagogique et le projet de plantes mellifères. Et j'ai fait un inventaire de 70 espèces mellifères sur toute l'année. Je continue à planter, je suis toujours curieux et attentif aux plantes. Donc, je fais des expériences qui sont plus ou moins heureuses, mais voilà, j'en parle aussi, quoi. Je peux avoir un exemple de quelques plantes qui ne vont pas apporter une ressource alimentaire suffisante aux abeilles. Mais imaginons que, là j'ai une vingtaine d'agastaches, imaginons que ces 20 agastaches soient multipliées par 150 jardiniers qu'ils les aient dans leur jardin, ou les agastaches, ou en plein été, il y a aussi l'hysope, par exemple, qui est une plante mellifère importante pour les insectes pollinisateurs, et qui sont aussi des plantes condimentaires, médicinales. Bah, s'il y avait 250 jardiniers qui avaient ces plantes dans leur carré de jardin, et bah, tout d'un coup, ça ferait une vraie ressource. Voilà. Donc c'est ça que j'essaye d'insuffler dans les jardins. Voilà. Donc ça sera le samedi après-midi à 15h. Et puis plus tard, à 18h, on fera le vernissage de l'exposition de Nolwenn. Et à 18h30, il y aura Guilhem qui viendra faire une démonstration de production d'eau de rose. Et il viendra aussi faire une petite vente de ces eaux de rose. Là, donc, c'est vraiment une démonstration d'un savoir-faire, on va dire, de production d'eau de rose. Et bah, toute l'après-midi, il y aura une buvette, et, évidemment. Et le soir, Cham, que l'on voit déjà sur le marché le mercredi et le samedi, proposera une assiette sri-lankaise à partir de 20h. Le soir, il n'y a pas d'événement particulier. On sera, voilà, s'il ne pleut pas. Mais bon, voilà.
C'est l'occasion de manger.
Voilà, on restera tranquillement au jardin et on terminera la soirée comme ça, tranquille. Le lendemain, c'est l'après-midi que ça se passe. Donc, à partir de 15h, une écoute naturaliste du jardin, d'une naturaliste qui s'appelle Lorraine Demange, pardon, et qui est naturaliste, qui est spécialiste des insectes. Et donc, la proposition, c'est vraiment de faire une écoute du jardin et de reconnaître éventuellement ce que l'on entend.
C'est comment ? C'est tout le monde est au casque ?
Ah non, on va se mettre dans le jardin.
Ah oui.
Et on écoute le jardin.
Oui. Donc, c'est pas des enregistrements.
Non, c'est pas des enregistrements. Voilà,
très bien. Ouais.
J'ai proposé un naturaliste qui fait de l'enregistrement d'insectes qui est à Lux, son nom m'échappe comme ça. Et j'espère faire un truc avec lui. Il a des enregistrements vraiment très intéressants. Mais là, non, c'est vraiment... je suis dans le jardin et j'entends du son. Et qui sait, voilà. Donc, il y aura les oiseaux. Mais ça, les oiseaux, il y a pas mal d'écoutes d'oiseaux qui sont organisées dans le Diwa. Donc ça, on commence à être assez au fait. Mais les insectes, moins.
Ouais, moi, j'aurais du mal à différencier
un bzzz d'un...
Est-ce que c'est une mouche ou est-ce que c'est une abeille ou est-ce que c'est un bourdon ou est-ce que c'est...
Oui. Et après, à 17h, donc, le son de la ruche qui est notre concert. Voilà, le concert avec Lorelai et Sébastien.
Donc, vendredi 2, samedi 3 et dimanche
et
4
juin.
Juin,
voilà.
Le Jardin Bleu, c'est...
Voilà. Et je crois que ce week-end-là, en tout cas, il n'y aura pas de programmation au théâtre, pas de programme particulière. Donc, voilà,
c'est tranquille, il n'y a personne en face
voilà,
de toi.
Oui, voilà, c'est pas un gros week-end avec un vendredi ou un lundi qui fait que tout le monde s'en va du Diwa. Voilà, donc c'est un week-end où les gens pourront venir au jardin tout le week-end. Voilà.
Olivier, tu nous redis où est situé ce Jardin Bleu ?
Et oui, bien sûr. Le Jardin Bleu, alors c'est très facile pour y aller. C'est les Jardins de l'Aube qui se trouvent au chemin de l'Aube. Donc, c'est le chemin qui relie le Chabestan, donc l'école de Chabestan, jusqu'au parking de Méros. Le Jardin Bleu, il se trouve pratiquement en face de Vercors Park. Et il y a deux cabanons en bois qui sont très visibles du chemin. Donc, et puis, il y aura évidemment du signalement qui sera fait. Donc, c'est à l'aube.
Est-ce que vous êtes enregistré, vous, le concert de la rue, le son de la ruche ?
Oui, enfin, normalement, oui. Natacha Boutkevitch viendra présenter son film. Et il y aura une discussion après le film au Pestel le soir. Et donc, elle va rester et elle va faire une captation le dimanche après-midi.
Voilà. Ouais, donc, on ne pourra pas entendre un petit extrait, là, par exemple ?
Non, on ne pouvait pas enregistrer l'année dernière. On était déjà en pleine canicule et c'était déjà un gros souci d'organiser ce projet-là du fait des très grosses chaleurs auxquelles on a été soumises l'année dernière. Donc on a eu pas mal de soucis techniques à cause de la chaleur. Ouais. Donc là, bon, apparemment, ça se passe un peu mieux et apparemment, peut-être dans 3 semaines, on ne sera pas déjà sous canicule, je ne pense pas.
Et tiens, ton point de vue d'artiste, mais aussi de praticien de jardin, quoi, on va dire, tu te vois l'avenir comment dans le Diwa, de moins en moins d'eau, de plus en plus difficile d'y vivre
On s'en sortira en s'inscrivant dès maintenant dans une dynamique. Voilà. Dynamique, ben, en fait, on a tous les éléments. Hein. La dynamique, on a les éléments scientifiques, de pratique. Il y a plein de maraîchers qui veulent bien travailler dans le Diwa. Il y a plein de...
Donc, prélever moins d'eau, planter plus d'arbres. Enfin, tu penses que ça passe par quoi ?
Ben, comment te dire ? À mon sens, on a une énorme marge de manœuvre. C'est-à-dire, quand on regarde des populations... où il faut qu'ils fassent 4 km pour aller marcher, pour prendre de l'eau potable, pour boire, etc. On n'en est absolument pas là. Par contre, continuer à avoir une attitude dans laquelle on a une relation à l'eau qui est une relation à l'eau d'abondance, c'est suicidaire. Donc, c'est dès maintenant que l'on doit se poser les questions de comment utiliser l'eau de façon différente. Mais de l'eau, de toute façon, la quantité d'eau sur Terre est la même, elle ne va pas changer demain. Donc, il va toujours pleuvoir sur le Diwa et sur la planète, mais sauf qu'il va pleuvoir différemment, à des temps différents, et voilà. Donc, on a une énorme marge de manœuvre, sauf que pour l'instant, ben, voilà, tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas forcément les bonnes cultures, les bonnes plantations. Faire pousser du maïs en Europe, ça ne va pas, c'est une plante tropicale le maïs. Donc arrêtons de faire pousser du maïs. Il faut arroser le maïs au moment où on n'a plus de flotte et voilà. Bon, bref. Donc il y a vraiment se réadapter à notre milieu. Et ça, c'est un beau projet. C'est une très belle ouverture. C'est une très belle façon de se, on va dire, selon le terme de Bruno Latour, d'atterrir. C'est pas une question de connexion. J'aime pas bien ce terme. C'est vraiment atterrir sur nos territoires et voir ce que nos territoires ont comme potentiel et vraiment s'adapter au potentiel du territoire. Mais on a un potentiel énorme, c'est énorme. Et par contre, ce projet-là d'adaptation, de réadaptation et d'ouverture à au potentiel de notre territoire, c'est génial comme projet. Je trouve que on vit une très belle époque. Je ne suis absolument pas, comment dire, défaitiste ou encore moins effondriste. Tout ça, c'est vraiment une situation de gens qui vivent dans l'abondance et qui, peut-être demain, vont devoir changer de style de vie.
Et qui le regrettent déjà.
Voilà, ça, ouais. Voilà. Mais ça va être différent. Ça va être ni mieux ni moins bien, ça va être différent. Et par contre, ce que l'on va gagner, moi, la chose qui m'enthousiasme, c'est ce que l'on va gagner, c'est justement cette ouverture sociale au monde du vivant. C'est-à-dire qu'on est en train de réinvestir toute notre relation sensible au vivant. Et ça, c'est une relation sensible qui fait qu'on va, on va agrandir nos sensibilités. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, quoi. C'est une très bonne nouvelle. Donc, dès aujourd'hui, le fait que l'on soit inquiet du manque d'eau, c'est déjà une relation sensible à un élément, eau.
C'est le début, quoi.
Voilà,
ça
c'est le début.
Bien.
Alors, le problème, c'est que ça se fait par le manque et par la perte. Mais oui, on s'aperçoit qu'une personne nous était chère, malheureusement, le jour où cette personne disparaît. Voilà. Et c'est ce qu'on est en train un peu de vivre. Et même la relation à la menace, c'est une relation que je ne crains pas, parce que quand on regarde les mythologies, etc., partout sur la Terre, partout sur la planète, toutes les civilisations, et puis même la nôtre, avec notre civilisation gréco-romaine, eh bien, la menace que pouvaient ressentir les Grecs anciens vis-à-vis des entités naturelles, c'est-à-dire mais elles étaient personnifiées par des dieux. Mais ça rigolait pas. Ça rigolait pas quand Zeus abattait sa foudre. La foudre, c'est... On ne négocie pas avec la foudre. On est soumis à la foudre. Personne négocie à la foudre. C'est pour ça que c'était le pouvoir le plus fort. Et après, les autres pouvoirs, que ce soit le vent à travers Éole et toute la mythologie, c'est fantastique de voir de quelle manière les peuples anciens ont su créer des histoires, donc des récits et donc des poésies et donc toute une relation. Et toutes les contraintes et les menaces qu'ils pouvaient vivre, ils en ont fait des histoires. Et en faisant des histoires, c'est ce qui a donné du sens à leur vie.
Lui, et dans leur relation au vivant.
Et dans leur relation au vivant. Donc c'est ça que l'on doit faire. Et effectivement, que le récit actuel, on va dire, d'une relation de marchandises, une relation comme ça de captation de ressources, ce terme-là est absolument atroce, quoi. Appeler ça une ressource, c'est une ressource sans rien. C'est juste des choses qui tournent. Donc cette captation-là où il n'y a que du gain et aucun retour, aucun négatif, et ben cette relation, effectivement, là, elle est mortifère. Donc c'est cette relation qu'il va falloir quitter. On va la quitter avec plus ou moins de heurts, de bonheur. Mais ce que l'on va gagner, ça va être énorme. C'est un très, très beau projet. Mais c'est maintenant qu'il faut s'y mettre. Et on s'y met.
Voilà. Merci, Olivier. Nous parlions donc des rendez-vous au Jardin Bleu, en l'occurrence. Ce sera donc les 2, 3 et 4 juin prochains. Les ateliers également, on en a parlé. À la prochaine.
Et oui, et le site internet du Jardin Bleu, c'est donc lejardin-bleu.com. Et voilà, il y a toutes les informations qui seront détaillées là.
Parfait.
Merci pour votre invitation.
À bientôt.